Et il est 12h30 sur Principe Actif, l'heure de Radio Super Pouvoir, votre émission qui décortique le monde des comics et des super-héros. Alors installez-vous bien, bon appétit et bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e édition de Radio Super Pouvoir, l'émission de superpouvoir.com qui décrypte l'actu des comics et des super-héros. Moi c'est Guillaume et je serai accompagné comme d'habitude par mon co-animateur Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous les auditeurs de Super Pouvoir et à ceux qui nous écoutent en podcast sur superpouvoir.com.
Alors avec Cédric, aujourd'hui, on a décidé de varier un petit peu la formule. Alors comme à notre habitude, on va commencer par les actus et les sorties du mois de juin et nous entamerons ensuite une discussion autour des comics Conan le Barbare à l'occasion de la sortie d'une nouvelle série chez Panini Comics. On envoie le premier jingle et on se retrouve juste après pour les actus et les sorties. Donc on commence avec une actu qui est plutôt surprenante, qui concerne une licence qu'on aime bien ici. Cédric, tu sais laquelle c'est ?
Alors non, une licence que tu aimes bien, hein, voilà. Et alors, au hasard, les Tortues Ninja ?
Exactement ! Parce que... Parce qu'après avoir été annulé en 2020, le crossover entre les Tortues Ninja et les Maîtres de l'Univers ressuscite et va finalement voir le jour chez Dark Horse Comics. Au scénario, on retrouve Tim Seeley et Freddie Williams 2 au niveau du dessin, donc qui avait déjà essayé de lancer le projet en 2019, et qui a aussi été embauché par James Tynion pour le Batman Tortue Ninja. Pour plus d'infos, je vous renvoie aux deux news qui ont été publiées sur superpouvoir.com, et la parution en VO du premier numéro est prévue pour le 25 septembre. Et hasard du calendrier, très étonnant, l'éditeur Sidonis Kalista va ressortir le film Les Maîtres de l'Univers en Blu-ray le 5 juillet, un bon gros nanar canon avec nul autre que Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor, magnifique. Donc le film, vous pourrez le placer, je pense, sans problème, à côté du Punisher de 89, ça va pas dépareiller.
Alors, tu as des choses...
Oui, exceptionnel.
J'avais pas envie de le voir, hein. Même s'il est réédité, j'ai pas envie, voilà. Parce que bon, bah, les Maîtres de l'Univers, moi, ça reste une licence que j'ai découvert en dessin animé quand j'étais tout petit. Et j'ai pas envie de voir Dolph Lundgren en Musclor, en fait. Voilà. Des fois, c'est bien de laisser les souvenirs là où ils sont.
C'est pas faux, mais bon. Moi, je me fais rire, ce film. Bon,
ouais, alors.
À 20€, je sais pas, on verra.
Non, à 20€, moi, j'y vais pas. Alors moi j'ai une petite news, c'est que bah, je vous faisais pressentir hein, la dernière fois on allait vous parler hein, des nouveaux titres X-Men, hein, puisque la série X-Men et tout l'univers X-Men est relancé à partir de juillet aux États-Unis. Hein, on abandonne les X-Men qui étaient tout seuls sur une île. Comme c'est Marvel hein, et comme il faut, comme l'a dit hein, le directeur de Marvel, il vaut mieux produire de la quantité que de la qualité. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Eh ben, on va avoir 9 titres réguliers pour les mutants et 2 mini-séries. Alors, les titres principaux, je vous en avais déjà parlé, je vais faire très vite, puisqu'il s'agit donc de Uncanny X-Men, qui sera entre les mains expertes de Gail Simon et David Marquez. Alors, des auteurs vraiment confirmés et qui ont souvent des choses à dire, donc ma foi, pourquoi pas. Il y aura X-Men hein, par Jed McKay et Ryan Stegman. Ryan Stegman, qui est un dessinateur que je déteste. Mais bon, à voir. Et puis, Exceptional X-Men, hein, par Eve Ewing hein, et Carmen Carnero. Alors, si Carmen Carnero, moi, je la vois comme une grande star des comics depuis un petit moment, Eve Ewing, j'ai quand même beaucoup plus de mal. Alors, ces 3 séries, hein, qui seront vraiment les séries phares de l'univers, elles seront accompagnées par tout un tas de séries régulières surprenantes, voilà, puisqu'on aura une série régulière Phoenix, donc Jean Grey, par Stephanie Phillips et Alessandro Miracolo, pour laquelle moi je prévois une durée de vie d'à peu près 10 épisodes, hein, parce que je ne vois pas clairement qui a envie de lire une série sur Jean Grey et sur Phoenix. À voir. On aura aussi NYX. Donc NYX, c'est une reprise d'une mini-série qui a été publiée il y a presque 20 ans par Marvel, qui voyait des jeunes avec des super-pouvoirs évoluer dans la ville de New York avec leurs galères, tout ça. On reprend le même principe, mais avec des gens connus, puisqu'il y aura Miss Marvel, par exemple. Les auteurs sont plutôt connus, puisque c'est Jackson Lansing et Colin Kelly qui font un bon boulot chez Marvel en ce moment. Ça pourrait être la surprise, hein. Ça pourrait être la surprise de ce relaunch. On aura aussi forcément, pour les plus bourrins d'entre nous, X-Force, hein, par Geoffrey Thorne, un scénariste inconnu qui a réalisé des séries télé, donc ça part très très mal déjà. Et puis Marc Husto, hein, un vétéran au dessin. une série régulière Storm, donc Tornade, hein, par Murewa Ayodele et Luca Werneck, deux inconnus hein, au bataillon, voilà. Et puis, ben, là, beaucoup plus intéressant, le retour d'X-Factor, hein, X-Factor, qui est une série culte donc des années 2000 et 2010, qui a été toujours scénarisée en fait par Peter David, hein, dont on va reparler prochainement dans une prochaine émission. Et X-Factor, c'est certainement l'une des meilleures séries X-Men qui a été publiée non seulement dans les années 2000, mais en plus dans les années 90, pardon, et dans les années 2010. Et ben là, X-Factor revient. Alors, c'est plus Peter David. Hein. De toute façon, Peter David, le pauvre, il a de plus en plus de mal à écrire. Là, c'est Mark Russell qui est au scénario. Et ben, moi, je l'attends impatiemment parce que ben, même s'il n'a pas toujours tout réussi, hein, notamment le Second Coming, Mark Russell, ben, il a réalisé quelques pépites comme son adaptation des Flintstones, Les Pierres à Feu. Encore la série Prez hein, chez DC Comics ou Billionaire Island. C'est un scénariste qui a un discours très très engagé, qui a beaucoup de recul sur la société, qui a beaucoup de choses à dénoncer. Et ma foi, quand je le vois sur un X-Factor, je me dis que bah, pourquoi pas, au moins il aura des choses à dire. Après, je l'attends sur la gestion d'une série régulière, à savoir est-ce qu'il sera capable d'écrire tous les mois quelque chose. Mais en tout cas, c'est moi l'annonce du titre qui me hype le plus, hein. Quant à Wolverine, hein, parce qu'on ne peut pas sortir une série X-Men sans sortir du Wolverine, je vous avais dit que Greg Capullo serait certainement au dessin, hein, le Greg Capullo de Batman. Eh ben non, la série régulière sera réalisée par Saladin Ahmed et Marco Coccolo. Capullo hein, réalisera quant à lui quand même du Wolverine, mais uniquement sur une mini-série qui sera scénarisée par ton scénariste préféré, hein, Guillaume Jonathan Hickman. Hein,
Aïe, aïe, aïe. Non, je plaisante. Mark Russell, il avait fait le Fantastic Four Life Story, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'était pas mal, ça. Hein.
J'avais pas trop aimé. Moi, j'ai beaucoup plus aimé donc ce qu'il avait fait, Mark Russell, sur Prez, qui est une très très bonne mini-série. Qu'Urban a sorti, hein, d'ailleurs, vous pouvez la trouver en VF. Second Coming, sur le retour de Jésus à notre époque, j'avais trouvé ça tout pourri. Par contre, il a sorti du Billionaire Island, il a sorti... un truc sur les robots avec Mike Deodato Jr. aussi, j'ai plus le nom, Not All Robots, ou je sais plus, un truc comme ça. Et puis surtout, vraiment, Mark Russell, son adaptation des Pierres à Feu, ça peut sembler débile, mais alors je vous assure que c'est extraordinaire. Il faudra peut-être que je vous en reparle d'ailleurs, parce que ça mérite le coup d'œil, mais ça ne sera jamais publié en France, malheureusement.
Bon, on sait jamais, tout est possible.
Ah, oh, j'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. Donc voilà, moi, c'était ce que j'avais à dire un petit peu pour les news de cette période.
Ah, merci Cédric, et je te laisse enchaîner avec les sorties du mois de juin.
Et oui, car maintenant, on va passer donc à la partie sorties, hein. On vous a raconté ce qui se passait dans l'univers des comics et ce que vous allez avoir dans vos librairies bientôt. Bah là, maintenant, on va vous parler de ce que vous allez avoir dans vos librairies maintenant. Et donc, je vous avais parlé de l'omnibus Namor, hein, il y a quelques épisodes, par John Byrne, qui allait être publié en France. Il a été reporté, hein, puisqu'il devait sortir en mai, et ce sera fait plutôt en juin. Donc l'omnibus Namor, hein, ce qui est intéressant, c'est que ça va reprendre des épisodes de la série Namor par John Byrne, hein, qui date des années 90 là aussi. Et ce qui est terrible, c'est que ces épisodes n'ont jamais été republiés en France. Donc le seul moyen de pouvoir lire ces épisodes, bah, c'est d'avoir collectionné à l'époque les Strange, hein, que seuls les plus de 40 ans ou de 50 ans maintenant connaissent. Hein. Mais disons que bah, c'est une rareté, ce Namor par John Byrne, parce qu'il relance vraiment le personnage, il se crée tout un univers, et surtout, à un moment, il laisse la main à un nouveau dessinateur, qui s'appelle Jelly, hein, qui va devenir une superstar. Bon, là, son style n'est pas complètement affirmé, mais c'est quand même intéressant, et puis l'omnibus va nous donner donc une histoire qui est complète, et ça, mine de rien, c'est plutôt pas mal. À noter hein, aussi, en juin, la sortie du Transformers hein, de Daniel Warren Johnson. Alors, Daniel Warren Johnson, c'est le gars qui transforme tous les comics qu'il produit en or hein, en ce moment. Vraiment, le public américain l'adore, le public français le porte au nu. Et moi, j'aime pas. J'aime pas Daniel Warren Johnson. Si je trouve un talent graphique indéniable, bah, je trouve que ses histoires sont pas exceptionnelles. Il avait fait une série « Do a Power Bomb », je crois, sur le catch, que j'avais trouvé gentillette sans plus.
Oui, c'est ça, faut aimer le catch. Hein.
Ouais, voilà, c'est sympathique, hein. Y a pas de grosse, mais pour moi, voilà, pour moi, c'est le nouveau Shawn Michael Murphy, hein, dont on va reparler, c'est-à-dire un gars hyper hypé, qui est un excellent dessinateur, il n'y a aucun problème, mais qui est un scénariste lambda, et je vois pas en quoi ses œuvres se démarquent d'autres choses. C'est mon avis personnel, hein, voilà. Donc, on verra, hein, on verra ce que donne ce Transformers. Alors je me dis Daniel Warren Johnson qui va ramener toute une hype de lecteurs soi-disant indépendants, plus la franchise Transformers, je ne vois pas comment ça ne peut pas fonctionner. Puisque je suis sûr que même toi, Guillaume, tu vas y aller. Hein.
Non, 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 non.
Non!
Les Transformers ne m'ont jamais intéressé. Et le problème, c'est que j'irai peut-être, mais s'ils publient cet univers sous format d'intégrale, parce que je me vois pas acheter les 3 ou 4 séries qui sont prévues, là, ça va être galère. En plus, il y a du, comment il s'appelle, Williamson, qui va faire les Cobra
Oui.
Commander et G.I. Joe. Je suis déçu à chaque fois que je lis quelque chose de lui, donc. Je
D'accord.
vais voir, je regarderai les critiques, ce que ça donne. Si j'ai l'occasion, j'essaierai d'en lire au moins un et on
OK.
verra à ce moment-là.
Et puis bon, bah, dans les artistes que surcotés, hein, j'en parlais, eh ben, on va avoir le Zorro, hein, de Shawn Michael Murphy. C'est-à-dire que ça y est, Shawn Michael Murphy arrête enfin de faire du Batman, hein, puisqu'il ne sait pas le faire à part White Knight. Et puis bah là, il se lance dans une adaptation de Zorro. Zorro, c'est un personnage qui a la cote en ce moment parce qu'il y a une nouvelle série télé, je crois, qui débarque sur Amazon. Et puis voilà, bah, des fois, hein, il y a des résurgences de personnages comme ça. Et là, ils ont filé donc le Zorro à Shawn Michael Murphy. Alors, je n'ai rien vu sur ce titre. J'irai quand même le lire parce que je crois que Urban m'a promis. M'a promis un service presse, donc je vous dirai ce que j'en pense la prochaine fois.
Oui, c'est bien ça, c'est des gens, des jeunes qui sont fans de Zorro et qui vont décider d'aller casser la gueule au cartel local.
À voir, moi encore une fois, Shawn Michael Murphy, je ne me fais aucun souci sur la partie graphique, par contre j'aurais plus de mal sur la partie scénario. On verra bien, je vous en parlerai, et puis il y aura aussi une chronique sur Super Pouvoir. Voilà, pour moi. C'est à peu près tout ce que je retiens des sorties de juin, en fait. Mais je suis sûr que tu as certainement d'autres choses à me
Oh,
raconter.
pas grand-chose en fait. Il
Ah!
y a également un report de mon côté, c'est Power Rangers Psycho-Pass qui a été repoussé au 21 juin par Vestron. Bon, les reports, ça arrive souvent chez eux, mais là je pense que la date sera la bonne vu tout ce qu'ils ont prévu sur la série pour les mois à venir. Et j'ai le regret de vous informer que c'est la seule sortie comics qui m'intéressait vraiment ce mois-ci, ce qui est une bonne occasion pour parler manga,
Ah
étant
bah, ma
de... Ah
foi,
bah oui,
allons-y,
ah
parlons
bah
manga.
oui. On va parler de quelques sorties Mangetsu et je vous renvoie à l'interview que j'ai faite avec Sullivan Rouault qui est disponible sur le site superpouvoir.com en exclu. On a longuement parlé de la maison d'édition. Et vont sortir le 5 juin les 2 premiers tomes de Red Blue, un manga de MMA. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les arts martiaux mixtes, un sport qui a été légalisé en France il y a très peu d'années.
C'est pas
Et
la compagnie d'assurance.
non, c'est pas la compagnie d'assurance, là, c'est des gens
D'accord.
qui font de la lutte ou de la boxe en même temps. Ouais, bon, là, c'est pour les néophytes que je dis ça, c'est plus complexe, mais pour
Non, c'est bon.
visualiser, voilà. Donc, c'est un seinen et ça raconte l'histoire d'un lycéen qui va se mettre au MMA pour pouvoir tabasser le type qui essayait de le protéger de ses harceleurs. Alors, le
OK.
pitch, il est vraiment atypique et j'ai hâte de découvrir ça. J'avais lu, entre guillemets, vu que je parle pas japonais, j'avais juste regardé visuellement le premier chapitre et je trouvais ça vraiment intéressant. À la même date, on a le 8e tome d'une série que j'aime beaucoup, Mibugi Shiden. Je vais pas vous spoiler l'intrigue car c'est un tome 8. Je vais simplement vous dire qu'on y suit la vie d'un bretteur hors pair lors de la guerre de Boshin au Japon. Donc c'est la guerre civile japonaise qui a mis fin au règne du shogun Tokugawa, pardon. Et ce samouraï, c'est Kanichiro Yoshimura. Et la particularité du titre, c'est que l'on va suivre sa vie et elle va nous être contée par plusieurs témoins. Des témoins qui l'ont côtoyé à l'époque. Alors, les cinéphiles, ils vont penser au Rashomon de Kurosawa, évidemment. Et le tome 8, il est très important, car on arrive à ce moment-là au 4e témoin. Sullivan m'a dit en interview que c'était l'un des plus importants, et c'est le cas parce que c'est un personnage dont le sort avait été laissé en suspens dans les tomes précédents. Je suis très curieux de découvrir ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, Mibugi Shiden, c'est vraiment quelque chose de très connu au Japon. C'est un roman à la base écrit par Jiro Asada, qui est vraiment un auteur à succès au Japon. Il a été traduit en France il y a très très longtemps et n'a pas été réédité depuis. Et Mibugi Shiden a aussi été adapté au cinéma il y a exactement 21 ans. Pour tout vous dire, c'est vraiment une de mes séries de manga préférées et je vous recommande fortement de lire cette série, en tout cas d'essayer. Tu lis des mangas, Cédric ?
Non. Voilà. Non, je peux pas. J'ai pas le temps, en fait, avec genre toute la production comics qui sort. J'ai plein de films à aller voir. À un moment, il faut faire des choix et j'avoue que bah, moi, les mangas... Je suis trop vieux, en fait, pour avoir été bercé par les mangas. Donc, moi, les mangas, c'est arrivé quand j'avais 20 ans. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup, puisque j'étais déjà à fond dans les comics. Ce qui ne m'a pas empêché d'être curieux. Hein. J'ai lu quelques mangas qu'on m'a recommandés. Je crois que c'est Pluto qui a été adapté à l'écran, là, avec Astro, le petit robot. J'ai lu quelques mangas classiques, Akira, enfin, ce genre de choses. Je nie pas la qualité, je dis juste que j'ai pas le temps de m'y intéresser, en fait, voilà. Mais je te fais confiance sur tes choix sans problème, voilà.
Ah, merci Cédric, c'est toujours intéressant, des petits témoignages comme ça. Alors, on va lancer le petit jingle dans un instant et on va passer à la partie critique. Donc, au départ, on devait parler de Sean Gordon Murphy. Tu t'es trompé, c'est pas Michael, c'est Gordon, son deuxième prénom. On devait parler de Génération de Joker. Bon, j'ai fait la critique sur superpouvoir.com et je me reparlerai plus jamais. Voilà, comme d'accord. Ça, c'est dit.
Vaut mieux laisser les choses de côté, des fois.
Oui, voilà. Donc, moi, j'oublie. C'est pas un titre que je vous recommande. Après, vous verrez.
Et puis... On n'est pas là non plus pour vous parler que des trucs pas bien, hein. On est là aussi pour vous parler des trucs qu'on aime, et ça c'est important.
Justement, car l'actualité est de notre côté en ce moment, car Conan le Barbare a été relancé très récemment par Titan Comics aux États-Unis, et c'est toujours publié chez Panini en France, et ce titre il est disponible depuis le 20 mars. C'est scénarisé par Jim Zub, qui n'est pas forcément l'auteur le plus connu actuellement, on va en reparler un petit peu. Et au dessin, on a Roberto De La Torre. Pour commencer, je pense qu'il faut faire un petit historique depuis 2019, c'est l'année où Marvel a récupéré les droits de Conan, qui était avant chez Titan, chez Dark Horse Comics. Et ça explique beaucoup de choses. Ils ont eu la licence entre 2019 et 2022, et les résultats de cette exploitation étaient pour le moins hasardeux en fonction de la personne que vous interrogerez. Il y a eu une série régulière sobrement intitulée Conan le Barbare, sous la direction de Jason Aaron, avec Mahmoud Asrar au dessin. L'histoire de Aaron, elle est contée en deux tomes qui s'intitulent « Vie et mort de Conan », qui est alors roi d'Aquilonie. La série, pour moi, elle est quand même de très bonne facture, et je vous signale en passant que le tome 1 est toujours au prix découvert de 10€ chez Panini. Donc si vous voulez essayer, franchement, vous perdez pas grand-chose. Hein. Plus la série est vraiment intéressante. Et ensuite, à partir du tome 3, la série a été reprise par le fameux Jim Zub, donc retenez bien son nom, qui a conclu cette série régulière en 2021 avec deux arcs narratifs, l'un intitulé Dans le creuset, qui est une espèce de tournoi, on va dire, j'en dis pas plus, et le second, qui s'intitulait Le Pays du Lotus, qui est vraiment, pour moi, l'un des meilleurs arcs de cette série, et qui était très magnifiquement illustré par Corey Smith, que nos fans des Tortues Ninja connaissent bien.
Évidemment.
Voilà, évidemment, tous les chemins mènent aux Tortues Ninja, c'est bien connu. Dans le même temps, Marvel a relancé la série Savage Sword of Conan, écrite par Jerry Duggan, c'était pas rien, et moi, j'y vais pas par quatre chemins. Franchement, ces titres, ils sont recommandables. Hein. Conan le Barbare, Savage Sword of Conan chez Marvel. Si vous aimez Conan, vous pouvez y aller. Vous trouverez votre bonheur, je pense. Mais le vrai point de contention, principalement pour les ayants droit de Robert Howard, c'est la fameuse série Savage Avengers, que même ceux qui ne l'ont pas lu connaissent, qui a été aussi écrite par Jerry Duggan, et dans laquelle Conan intégrait, vous l'aurez deviné, une équipe des Avengers. Alors les réactions ont vraiment été épidermiques chez les fans, et comme je l'ai dit chez les ayants droit, ça a vraiment gueulé à ce moment-là. Bon, je vais vous pitcher la série vite fait. C'est assez simple. Le sorcier Kulangat de l'univers de Conan mène un rituel qui implique des sacrifices humains, et ce dernier et Conan sont transportés dans l'univers Marvel. Je précise que la série a été lancée autour de l'event War of the Realm de Jason Aaron en 2019. Ça a du sens quand vous lisez la série. Conan y va s'allier alors, ouvrez bien les oreilles, à Wolverine, le Punisher, Venom, Elektra et Docteur Voodoo. Donc dans cette série, vous pouvez vous attendre à quoi ? Conan qui va utiliser les flingues du Punisher et Punisher qui va s'emparer de l'épée de Conan pour découper des gros méchants en morceaux. Et oui, Conan qui picole avec Deadpool et plein d'autres joyeusetés. Bon, je sens que tu es emballé là, Cédric.
Je suis affligé, en fait. Non, après, c'est toujours pareil. Peu importe les idées, si elles sont bien menées, là, on sentait quand même le truc hyper commercial. Hey, regardez, on a mis Conan chez les Avengers. Et en dehors de cette idée-là, le reste, c'est du comics de base et ça n'apporte absolument rien, que ce soit pour le personnage de Conan, ni même pour les autres. En fait, c'est quelque chose que vous allez lire et puis vous allez l'oublier quasiment immédiatement. J'avais lu les 2-3 premiers épisodes et je ne m'en souviens absolument plus. Voilà, non, là, on est vraiment... Il y avait un Conan 2099 aussi que j'ai cru voir... Non, vraiment, là, il faut pas... Voilà, je suis vraiment pas contre toutes les expérimentations, toutes les choses qu'on peut tenter. Et mine de rien, c'est ça qui fait progresser le comics. Mais quand c'est fait à des fins uniquement mercantiles, on va pas parler de l'affreuse exploitation des comics Star Wars chez Marvel qui a jamais eu vraiment d'intérêt, en fait. Voilà. Là, c'est Conan. Bon, ils l'ont gardé 3 ans. Puis c'est surtout qu'on peut pas s'empêcher de penser à ce qui a été fait sur Conan avant, quand Marvel l'avait dans les années 80-70. Et là, ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que si Marvel n'a pas intégré Conan à son univers dans les années 80, alors qu'ils auraient pu le faire, là, je vois pas quel est l'intérêt de le faire maintenant si c'était pour vendre uniquement des comics sur une couverture, quoi, en fait.
Malheureusement, tout ça va très mal se terminer. C'est assez malheureux, cette histoire est navrante. Il n'y a pas d'autre moyen de la qualifier. Et pour Jason Aaron, justement. Il voulait conclure son histoire. Bon, elle était plus ou moins terminée, mais il voulait proposer un grand final pour son Conan. Et il a écrit pour une sortie au premier semestre 2022, et c'était toujours avec Mahmoud Asrar, un King Conan. Et ce titre lui a valu d'être taxé de racisme pour s'être soi-disant inspiré de l'histoire de Pocahontas pour son principal protagoniste féminin. Ce que Jason Aaron a d'ailleurs formellement démenti, sauf que ça s'est pas arrêté là, car Marvel a pris la décision de censurer les planches de Mahmoud Asrar en plus de ça dans l'édition reliée. Visuellement, pour vous indiquer un peu la chose, le personnage, donc, qui s'appelle Matoaka, était inspiré en partie des illustrations de Frazetta, donc Frank Frazetta, le grand illustrateur de Conan, avec une petite touche précolombienne dans sa tenue et sa coiffure, ça fait un peu aztèque sur les bords. Enfin, c'est ce qu'on voit chez beaucoup d'artistes qui prennent en charge Conan. Hein. C'est pas exceptionnel ce qu'ils ont fait là.
Non, alors, pour revenir, Frank Frazetta, c'est quelqu'un qui a illustré énormément les couvertures des comics Conan à l'époque, qui est pas un artiste de comics en soi, mais qui est vraiment un illustrateur. Et vous ne pouvez pas, si vous avez connu Conan, ne pas avoir vu devant vous les planches de Frazetta, où c'est souvent un gros barbare musclé avec 2-3 femmes lascives à ses pieds. Hein. Évidemment, c'est plus tout à fait dans l'air du temps, hein, malheureusement. Voilà. Et le fait d'avoir repris un petit peu ces illustrations-là, en 2020, ça passe plus. Voilà.
Ouais.
Donc on a taxé Aaron d'appropriation culturelle.
Voilà, et ça a été quelque chose qui s'est fait sur un réseau social que je ne nommerai pas.
Comme d'hab.
Ce qui s'est passé, c'est que Marvel, donc ils ont supprimé la couronne du personnage, ils ont changé sa coiffure, et ils l'ont recouvert d'une espèce de tunique façon sac à patates. Voilà, alors tout ça, c'était dans le but de s'éloigner de l'inspiration amérindienne. Bon, c'était un look précolombien, donc amérindien, il faudra m'expliquer. Et dans le but de désexualiser le personnage. Ce qui est un con pour un comics Conan, hein. Faut quand même le dire. Hein. On n'est pas chez Spider-Man, quoi. On n'est pas sur un comics pour les 10-12 ans. Donc c'était assez incompréhensible, quand même.
Bah c'est voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'un personnage comme Conan, tel qu'il a été publié il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, a encore sa place en 2024, 25, je crois pas, en fait. À moins d'être vraiment publié sous une licence adulte, parce que bah, Conan, à chaque fin d'épisode, il séduit une dame et il la met dans son lit, quoi. Alors, moi, je trouvais ça très redondant, hein, même à l'époque, c'était souvent pas très bien fait, mais c'est l'essence du personnage. Alors, à moins de redéfinir un Conan, pourquoi pas ? Mais là, pour le coup, il faut être très très bon et il faut avoir beaucoup d'idées, quoi. Donc là, c'est vrai que Conan, ça semble très compliqué de le sortir dans une maison d'édition qui fait tout public, genre Marvel. Après, encore une fois, Marvel l'aurait mis sous un format pour des personnes adultes, l'aurait mis avec un format suggéré aux lecteurs adultes, etc., comme ils peuvent le faire, hein, puisqu'ils l'ont fait pour plein de séries même actuelles, hein, notamment Miracle Man, ça aurait pu marcher, mais ils se seraient privés de la moitié de leur public, quoi. Donc c'est une équation un petit peu impossible, Conan, en ce moment.
Ouais, et ça n'a vraiment pas plu aux ayants droit de Conan, donc ils ont décidé de retirer la licence à Marvel, tout simplement. Et après plusieurs mois d'attente, donc c'était en 2022, ils ont choisi l'éditeur Titan Comics pour reprendre la série en 2023 avec, eh bien, Jim Zub à l'écriture, et qui s'était illustré donc sur les Conan chez Marvel, et son travail avait plu. Pour tout dire sur Jim Zub, il s'est spécialisé depuis quelques années c'est un auteur canadien qui s'est spécialisé dans les adaptations de Robert Howard. Il a fait du Conan donc chez Marvel, il a travaillé sur Red Sonja chez Dynamite, il a écrit Unbreakable Red Sonja, qui est inédit en VF mais qui est très bon, j'espère qu'il paraîtra un jour. Et pour les fans de Marvel, il a bossé sur du Marvel Zombie, j'ai pas lu ça, et sur une mini-série intitulée Murder World, qui était correcte. On voyait que c'était pas mémorable pour un sou, quoi.
Jim Zub, c'est un nom qui revient de temps en temps chez Marvel, il fait quelques séries, il fait quelque chose. J'ai dû lire 2-3 trucs. Ça me semble être l'honnête faiseur, c'est-à-dire le gars qui va vous faire un scénario, qui tient la route, c'est pas mal écrit. Après, c'est rarement transcendant. En revanche, si sa spécialité, c'est les adaptations de Howard et Conan, à voir, ça peut donner quelque chose de très très bien. Moi, je les ai pas lus, donc je peux pas commenter là-dessus.
Et il est rejoint donc pour écrire ce titre donc par Rob de la Torre, qui se charge du dessin. Donc Rob de la Torre, il a bossé sur l'univers Valiant, et vous le retrouverez bientôt en VF sur Rick and Morty versus Cthulhu chez iComics. Je lis pas Rick and Morty, je ne dirai rien. Et pour ce premier arc, donc qui est intitulé Lié à la Pierre Noire, le Cimmerien va affronter une horde de morts-vivants pictes qui décime dans un premier temps ses compagnons. Conan, il est sauvé de justesse par Brissa, une guerrière picte qui est issue de ce peuple qui a été transformé en simili-zombie. Donc ils vont tomber amoureux, et comme Cédric l'a dit, il va encore y avoir une histoire de fesses derrière ça, c'est du Conan, quoi. On peut dire que Jim Zub, il est très fidèle aux matériaux d'origine, et ça se laisse lire vraiment sans déplaisir, hein. C'est vraiment chouette, Lié à la Pierre Noire. On voit que Jim Zub, il a aimé les titres Conan de Robert Howard, qui s'inspiraient des nouvelles de Lovecraft, parce que là, on est dans vraiment quelque chose de très fantastique, très horrifique. Donc, c'est une œuvre qui est différente. Donc, au moins, on n'est pas surpris là-dessus. Ce qui peut être un petit peu pénible par moment, c'est une très légère critique, hein, c'est pas non plus énorme, c'est qu'on a des blocs de texte parfois qui peuvent un peu entacher les splash pages de Rob de la Torre, qui sont d'ailleurs assez magnifiques. Donc, y a notamment une planche où on voit Conan tomber dans un lac souterrain. Visuellement, on comprend ce qui se passe, mais le narrateur peut pas s'empêcher de jacter. C'est un peu pénible, mais bon, c'est pas grand-chose, hein. On va dire que sans, ça aurait été mieux. Avec, c'est bien. Voilà. Des fois, les auteurs devraient laisser parler le visuel, surtout quand ils ont des artistes comme Rob de la Torre. Alors, on a une ambiance qui est très marquée par les grands espaces naturels. On a un peu un côté western, je trouve, dans ce Conan. L'atmosphère, elle est pesante, il y a un côté survie, et on a des choix qui sont intéressants. Rob de la Torre, par exemple, on voit qu'il est différent de John Buscema. Son Conan, au niveau du visage, il ressemble beaucoup à celui de Buscema. On a une inspiration très années 70, et la démarche, je la trouve intéressante. Elle est dans la logique des comics Conan le Barbare, qui est très différente de celle de Conan le Cimmerien qu'on retrouve chez Glénat. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette adaptation, elle est réussie? Alors, pour moi, oui. Je trouve qu'elle est réussie. Et on sait que c'est réussi car Titan va relancer Savage Sword of Conan avec des invités comme John Arcudi, dont on a déjà parlé dans cette émission, et un event intitulé Battle of the Blackstone, qui sera un crossover entre plusieurs personnages de l'univers de Robert Howard. Si je devais résumer ça, très bon récit d'aventure. Les fans de Howard et de Dark Fantasy, je pense qu'ils apprécieront. Et si vous êtes lecteur de VO, je vous conseille de lire les Red Sonja de Jim Zub. Alors, ça se trouve chez Panini Comics à 18€ pour un total de 128 pages. Et la maquette est plutôt cohérente avec les éditions de Conan de chez Marvel. On enchaîne très rapidement avec le petit jingle et on passe à la discussion. Et une petite pause musicale avant de passer à la suite de l'émission. On écoute Chrome par le groupe Arno Corps. A tout de suite.
Jason.
Et toi, Cédric, tu es un amateur de Conan ?
Alors, c'est intéressant hein, comme question, parce que moi, l'un des tout premiers romans hein, que j'ai lu de ma vie, bah, ça devait être Conan. J'avais, je pense, entre 8 et 10 ans, hein, et j'ai bah, lu donc les nouvelles de Robert Howard, bon, qui est, hein, on le rappelle, hein, le créateur du personnage dès 1932. Et oui, Conan, à la base, c'est pas qu'un personnage de comics, ni même de film. C'est un personnage de roman, et notamment des pulp. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pulp ? Un pulp, ça n'a pas vraiment de traduction en français, hein, même si tout le monde c'est ce que ça représente, hein, je pense bien évidemment à Pulp Fiction hein, de Tarantino. Et bien les Pulp, c'est des romans qui ont été imprimés sur du papier de très mauvaise qualité dans les années 30, sur de la pulpe de bois, donc d'où le nom de Pulp Pulp, qui revenait beaucoup moins cher à fabriquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 30, on est en pleine crise économique majeure aux États-Unis, et les Pulp, qu'on pourrait traduire en fait par romans de gare, vous savez, ces romans un peu cheap, voilà, sur du papier un peu dégueulasse, et ben, ça a connu un succès énorme à ce moment-là, et ça a permis à plein d'auteurs de se lancer, parce que bah, c'est dans les pages de ces bouquins qu'on a vu apparaître pour la première fois les personnages de Conan, de Tarzan, de John Carter, de Mars, ou encore de Zorro, hein, qui ont tous été adaptés plus ou moins dans d'autres médiums, mais c'est là-dessus qu'ils sont sortis. Les pulps, c'est une inspiration majeure des comics, puisque les pulps, c'était le média qui marchait avant que les comics ne débarquent dans les années 40, et l'importance et le lien entre les deux n'est plus à faire. Ça a été documenté dans nombre de livres, par exemple, Superman, on peut le rapprocher de Doc Savage, Batman du Shadow, hein, voilà. D'ailleurs, hein, les plus grands éditeurs de comics dans les années 40, ceux qui s'occupaient vraiment de l'édition des bouquins, bah, c'était des fans de pulp. Hein. S'il n'y avait pas eu les pulps, qu'il n'y aurait pas eu de comics ni même de super-héros. Et puis, bah, de grands écrivains de science-fiction ont écrit hein, pour ces magazines pulps, comme Isaac Asimov, Arthur Clarke, Philip K. Dick, même Lovecraft, hein, il a écrit pour des pulps avant de bah, devenir des auteurs reconnus, et notamment bah, Robert Howard, hein, voilà. Et ces nouvelles de Conan, moi, elles avaient été publiées chez J'ai lu hein, dans les années 80, et mon grand-père, il m'avait acheté ça quand j'étais tout jeune. Donc moi, j'ai connu Conan par les romans, en fait, avant de les découvrir en BD, je pense au début des années 80. Alors pour les lecteurs, bon, les lecteurs qui ont vécu sur une autre planète, on va quand même décrire un petit peu qui est Conan, parce que c'est vrai que nous, on parle de Conan parce qu'on lit ses aventures depuis des années, mais qui c'est Conan, en fait ? Bah, Conan, c'est un guerrier hein, qui vit dans un monde imaginaire et qui, uniquement armé de son courage, de son épée et de sa masculinité virile, hein, bah, va combattre toutes sortes de démons, de sorciers et d'animaux fantastiques. Conan, hein, il fait partie de la mouvance Sword and Sorcery, qu'on pourrait rapprocher un petit peu de la fantasy, mais qui se traduit plutôt par épée et sorcellerie. Et Conan, en fait, il était publié en France dans les années 70-80 par Aredit Artima, hein, dans des albums couleurs qui reprenaient ben, les épisodes de la série Conan the Barbarian, hein, celle, la série régulière, par Roy Thomas et John Buscema, et c'était la série la plus feuilletonnante, en fait. Parce que Conan, ben, en France, on a eu cette série-là, et puis on a eu d'autres séries dérivées, dont je vais parler plus tard, qui sont passées entre les mains de l'éditeur Mon Journal, en format noir et blanc, quand celui-ci s'est lancé dans l'adaptation des comics de chez Marvel, notamment ceux des Epic de chez Marvel, et il a fallu attendre bah, je pense, un petit moment, ça a duré peut-être une année, deux ans, grand max, les publications de Conan dans Mon Journal, et puis bah, ça s'est arrêté. Si Conan, au départ, c'est un personnage de roman, bah, il a fallu attendre quand même un petit moment, c'est-à-dire les années 70, hein, pour que Marvel ait les droits de publication du héros, qui va confier tout de suite à Roy Thomas, hein, qui est un expert des adaptations de romans en bande dessinée, hein, puisque c'est aussi lui qui a signé l'adaptation de l'Odyssée d'Homère, et il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est lui qui a fait le portrait de Dorian Gray aussi, quand Marvel republiait des classiques. Bon, au dessin, durant les deux premières années hein, de la série Conan des années 70, et bah, c'est Barry Windsor Smith, hein, dont on avait, je crois, chronique et l'œuvre Monsters dans peut-être l'une de nos toutes premières émissions, hein, et qui est devenue une légende vivante, hein, des comics depuis.
Dans la seconde émission, si vous voulez la retrouver.
C'est sur Conan, hein, qu'il avait commencé, Barry Smith, quand il était tout jeune. Ce qui est intéressant, c'est que Barry Smith, il a un style très fin, et son Conan n'est pas une brute épaisse. Il est très très fin, il n'a pas le look définitif que va lui donner après un John Buscema. Barry Smith, à l'époque, c'est un inconnu. Et le style, il va tellement impressionner Stan Lee à l'époque que Stan Lee, il veut tout simplement annuler la série Conan au bout de l'épisode 7 ou 8 pour mettre Barry Smith sur les Avengers, sur les grosses séries Marvel qui cartonnent. Évidemment, Roy Thomas, qui était plus ou moins l'éditeur en chef de Marvel à l'époque aussi, a beaucoup râlé. Donc ça a continué. Finalement, la transition se fera au numéro 25, hein, c'est-à-dire 2 ans plus tard, lorsque Barry Smith est remplacé par John Buscema, qui va devenir un dessinateur historique de Conan. C'est le personnage qu'il a le plus dessiné. Si vous avez une tête de Conan dans les comics, dans votre esprit, c'est du John Buscema. Il n'y a rien d'autre. Il va lui donner son aspect un peu plus musculeux, qui est repris dans toutes les bandes dessinées que tu viens de citer. Et pour info, John Buscema, il a réalisé quasiment tous les épisodes de Conan the Barbarian entre le numéro 25 et le numéro 190, pour vous donner une idée, voilà. Roy Thomas, lui, il va quitter la série un petit peu plus tôt, puisqu'il la quitte au numéro 120. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va utiliser plein de personnages de Robert Howard dans la série Conan. Dans les premiers, on peut voir Elric, par exemple, alors qu'il n'est pas de Robert Howard, hein, qui est de Michael Moorcock, mais il va utiliser plein de personnages de Pulp. On va avoir Red Sonja, etc., qui vont apparaître dans les pages de Conan. Donc, ce qui veut dire que la série Conan Marvel au départ était plus ou moins basée sur des choses qui étaient très littéraires. Alors la série, elle a connu un tel succès que finalement elle a enfanté une autre série spin-off. Donc il y avait 2 séries régulières sur Conan. Conan the Barbarian, qui est la plus continue, c'est-à-dire celle qui nous donne une histoire qui s'étale sur plusieurs numéros. Et puis Savage Sword of Conan, qui raconte des histoires indépendantes, un peu plus adultes, et piochées un peu partout dans l'histoire du personnage, qui sont elles aussi la plupart du temps dessinées par John Buscema et scénarisées par Roy Thomas. Mais John Buscema, il a laissé la place à des encreurs qui prennent aussi le dessin, comme Alfredo Alcala, Ernie Chua ou encore Tony Zuniga, tous ces dessinateurs philippins encreurs qui sont de très très grands artistes et qui permettent de magnifier le dessin de John Buscema. On a même eu une troisième série régulière, King Conan, qui raconte l'histoire de Conan devenu roi et qui élève son fils. Alors moi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais quoi, 10 ans peut-être, parce que un gars avec une épée qui combat les dragons, ça marche toujours. À la relecture, je trouve ça très redondant, moi. C'est-à-dire que les aventures de Conan, c'est toujours Conan est dans une taverne, il boit, il va se rattaquer, il va combattre, et à la fin, il finit avec la fille. Au bout d'un moment, moi, j'ai trouvé un peu ça lassant. Mais bon, la série de chez Marvel, elle a eu le mérite de durer très longtemps, puisqu'elle va durer jusque dans les années 90. Et elle va aussi mettre le pied à l'étrier à de nombreux artistes qui vont devenir célèbres, comme par exemple Mark Silvestri, le dessinateur qui a cartonné après chez Image et qui a présidé aux destinées des X-Men, de Cyberforce, de Darkness, ce genre de choses. Ben, il a commencé sur du Conan, Alors Marvel, et c'est ce que je disais tout à l'heure, n'a pas voulu intégrer Conan à son univers, alors qu'il aurait très bien pu le faire. On l'a à peine vu sur un What If, donc une histoire imaginaire, et si Conan s'était retrouvé à notre époque, qu'est-ce qu'il fait? Il combat des sorciers et il finit avec la fille, donc c'est relativement classique pour du Conan, voilà. On a pu l'entreapercevoir dans 2 épisodes des X-Men dans les années 90, où justement les X-Men affrontent Kulan Gart, le sorcier dont tu nous as parlé tout à l'heure. Mais c'est un peu tout. Marvel a laissé tomber la licence Conan dans les années 90, qui a atterri donc chez l'éditeur Dark Horse, donc en 2003, avec une série régulière par Kurt Busiek, des Avengers, et Carrie Nord, dont quelques épisodes ont été publiés en France, je crois, chez Soleil, il me semble. Et puis, Marvel va reprendre les droits, c'est ce que tu nous as dit en début d'émission, avec l'échec qu'on connaît, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que la législation autour des droits d'auteur n'est pas la même en France et aux États-Unis. Et en France, certaines nouvelles de Conan écrites par Robert Howard sont tombées dans le domaine public, ce qui fait que ça a permis donc à Glénat, l'éditeur français, de proposer sa propre version de Conan dans une série d'albums dont on a plus ou moins parler tout à l'heure. Cette ligne, hein, elle existe depuis plusieurs années maintenant, et tout ça, donc parallèlement aux comics publiés par Panini, hein, aux comics Marvel qui sont publiés par Panini, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des comics Conan publiés par Panini qui représentent ce que fait Marvel, et puis des comics Glénat, hein, qui racontent l'histoire de Conan sous un format franco-belge, qui sont en fait des adaptations des histoires de Robert Howard. Pour finir, hein, si j'ai envie d'être exhaustif, on ne peut pas ne pas parler du film Conan le Barbare de John Milius, qu'on pourrait considérer comme un nanar, mais qui n'en est pas un, c'est plutôt un chef-d'œuvre. Nanar, je dirais plutôt sa suite, hein, Conan le Destructeur 2, qui a mis en avant ce grand acteur qui est Arnold Schwarzenegger, mais aussi Grace Jones. Et puis si on veut finir, hein, vous l'avez certainement oublié, et je peux le comprendre, mais Conan, il est revenu au cinéma dans les années 2010, sous la houlette de Marcus Nispel, le réalisateur du remake de Massacre à la tronçonneuse. Et qui jouait Conan? Je suis sûr, Guillaume, que tu le sais, c'est...
Aqua Momoa,
voilà, Jason Momoa, qui jouait, alors jouer est un bien grand mot, hein, voilà.
Oui, je dirais la même chose, oui, jouer, c'est... Est-ce qu'il sait jouer?
Voilà, en gros, il fait du Khal Drogo, hein, ce qu'il avait fait dans Le Trône de Fer, là où il n'avait pas d'expression à voir et où il n'a rien joué à part une grosse brute, eh ben c'est ce Conan de 2010 qui, pour moi, n'a vraiment aucun, mais alors aucun intérêt. Voilà. Donc, moi, c'est mon expérience avec Conan. En fait.
Pour moi, le meilleur rôle de Momoa, c'est dans Du plomb dans la tête, où il se frite contre Stallone avec une hache à la fin.
Je ne vois pas ce genre de film, Guillaume. Ça, je te laisse.
Non, mais alors... c'est un polar, en fait. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est adapté du plomb dans la tête de Matt. Il est pas mauvais là-dedans, mais justement, parce qu'il est censé jouer un personnage qui a aucune émotion. Donc, il a la tête vraiment raide du début à la fin. Au moins, ça fonctionne, quoi.
C'est parfait.
Bah... Disons que c'est là où on voit l'intelligence de Schwarzenegger. Hein. Arnold, il a enchaîné Conan, Conan le Destructeur et Terminator, et c'est ça qui a fait de lui vraiment une star à l'époque. Momoa, il n'a pas du tout su gérer sa carrière de la même façon. Bon, je pense pas qu'il ait l'intelligence des affaires qu'a Schwarzenegger, hein. Très peu d'acteurs longs de toute façon. Et on pense que... Il y a un projet King Conan avec Arnold qui est prévu. D'ailleurs, Arnold, si vous voulez, il vend des t-shirts Conan pour la salle de muscu sur son site. C'est toujours marrant à avoir. Et donc, ce King Conan, il est en développement depuis des années. Alors, est-ce qu'il se fera ou pas?
Non, je pense pas.
J'espère que non, parce que bon, il commence à être âgé quand même, là, Arnold. Avec un bon scénariste et un bon réal, on sait jamais, mais vu ce qu'il fait depuis quelques années, j'en doute. Et tu parlais un petit peu des Conan le Cimérien. Alors, moi, j'en ai lu l'intégralité chez Glénat, sauf le dernier, le Maraud de Noir, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je me demandais si tu en avais lu certains, toi, Cédric.
Non, moi, je suis... Conan, encore une fois, c'est un personnage que j'ai aimé quand j'avais 12 ans. J'ai eu beaucoup de mal à relire la série régulière. Alors, les épisodes de Smith, oui. Les épisodes de Buscema, je les trouve très, très redondants. L'écriture de Roy Thomas, voilà. En fait, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Et le voir ressortir, en plus, sous une adaptation de nouvelles qui ont déjà été adaptées et que j'ai déjà lues, ça m'intéresse pas, même si je dois reconnaître que ça doit être très très intéressant, mais encore une fois, moi j'ai pas eu le temps d'y aller. Le personnage m'inspirant pas plus que ça. Voilà, j'ai laissé tomber, mais je pense qu'il y a des pépites dedans.
Oui, il y a des pépites, parce que c'est le principe qu'a mis Glénat en place, enfin, surtout le directeur de collection, c'est une histoire, une équipe. Je vais peut-être finir par une petite reco. Trois, on va en mettre trois, parce que là, on arrive sur la fin de l'émission. Alors, mon top 3, et c'est mon top, hein, ce sera sans doute pas le vôtre. Je dirais en premier, le tome 3, Au-delà de la rivière noire, qui est atypique visuellement, c'est même déconcertant par moments, mais il y a un vrai point de vue visuel sur les personnages et sur l'univers de Robert Howard, et c'est vraiment intéressant. Le tome 4 ensuite, oui, tome 3, tome 4, La fille du géant du gel, qui moi était une de mes histoires préférées quand j'ai découvert les romans, enfin les nouvelles de Conan, et là aussi c'est un de mes albums préférés chez Glénat, il y a un souffle épique là-dedans qui est vraiment super. Et je vous le recommande, bon, je vais pas trop raconter l'histoire parce que bon, il y a peu de dialogue, on va dire, dans cette histoire, et tout est basé sur, dans la nouvelle, l'imaginaire, et dans l'adaptation BD sur le visuel. Et je terminerai par le tome 13, Xutel la crépusculaire, de Christophe Beck et Stephen Soubidge, dont on vous avait déjà parlé, dans la troisième émission sur le Riddler. Et là, c'est un feu d'artifice visuel, hein. Vraiment, si vous devez en lire qu'une, je dirais lisez celle-là. Lisez vraiment celle-là.
D'accord, je tenterai peut-être le coup, moi.
Ah oui, c'est vraiment chouette, hein. Pour moi, c'est exceptionnel. Alors, j'aurais bien aimé lire l'édition en noir et blanc, mais elle est épuisée partout. Elle est épuisée depuis quasiment le premier jour de la sortie. comme ça, c'est vite fait. Et Glénat a sorti très récemment le Maraudeur Noir. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Ce sera peut-être l'occasion. On aura une occasion d'en reparler, peut-être. Voilà, bon, bah, on espère que
c'est... Je pense qu'on a été exhaustif hein, sur Conan. Hein. On a été pas mal, là.
Oui, je pense aussi. Hein. On espère que ça vous a plu, ce petit changement... Petite formule un peu différente. Et sur ces bonnes paroles, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines pour une émission placée sous le signe des super-héros. En attendant, prenez soin de vous et...
Lisez des comics, c'est ça ?
Je crois que c'est ça, oui.
Lisez des comics.
À bientôt.
À bientôt.